Portrait. Paysan du Diwa. Un projet de vie. Rencontre avec Daniel et Jean-Louis Meureau.
C'est orageux, vous savez, c'est comme les mouches, hein, ça les énerve.
Alors,
après
Daniel. Il y a un gros pot de yaourt pour madame, et il y en a deux de réservés pour
Fanny. On se croirait sur le stand de la fromagère de Vachère, là, vous la connaissez, là? À l'heure d'affluence.
Alors, une tranche, comment, comme ça?
Comme ça. Bonne tranche, ma bonne dame.
Une bonne tranche.
Une bonne tranche, comme ça.
Un tout petit peu plus.
Donc ça fait 5 plus 3, 8, 5.
Et des bits combien?
8,05.
0,13.
C'est tout du brebis, pour préciser.
Ah, la tombe, je suis en train de le rentrer.
C'est précisé avec le doigt.
Voilà, je vous donne la main.
Donc 2,65, mais on s'en sort là.
4, 6, 8 et 5 centimes, c'est très bien.
Voilà.
Bravo. Merci beaucoup, bonne journée.
Alors on vous ambiance, s'il y en a. 2,65.
C'est un peu le théâtre, quoi, en fait.
C'est marrant, c'est marrant.
Le public est dans l'allée, et nous, on est sur scène. Là. Et on invente les dialogues au fur et à mesure.
Merci, madame. Bonne journée.
Et voilà, il n'y a,
voilà,
personne.
Y a plus personne. On se calme.
Ça fait vide.
Mais c'est comme l'océan. Hein. Où la vague est sur la plage, un coup, le repart vers là.
Ouais.
Et voilà. Le sac et le ressac.
Quand on est arrivé, les personnes âgées disaient « Bientôt, il y a plus de chiens que d'humains. » Eh bien, le fait qu'on soit là a fait revenir les humains. Le fait qu'il y ait le troupeau dans le village, ça fait une sacrée vie. Il y a des gens ici qui disent « Il y a peut-être des mouches, mais il y a de la vie parce qu'il y a le troupeau qui passe le matin. Il y a vous qui passez. Et s'il n'y avait pas ça, eh bien, le village, il serait un peu mort. Et le fait qu'on soit arrivé aussi, ça a amené des enfants au village, maintenant qu'ils sont grands. Et puis, la présence des autres aussi qui se sont installés, qui ont amené aussi des enfants, ça a amené aussi sur le plan social le fait que l'école de Sainte-Croix continue de vivre, qu'il y avait le boulanger qui passait, le facteur est toujours là... Et tout ça, pour nous, c'est vraiment un tout, quoi. Le fait qu'il y ait des paysans dans le village, ça amène tout ça aussi. Le milieu, c'est ouvert.
Quand on est loin, on regarde les collines et tout, on voit pas les bois comme ça, comme quand on est dedans. Hein. On s'imagine un truc impénétrable. Là, tu vois, on voit, il y a des sentiers, il y a une certaine densité de sentiers aussi. Je ne me suis jamais bien senti à la ville. Et donc, heureusement, mes parents, ils avaient un petit pavillon en banlieue, mais ils avaient un jardin et on pouvait jardiner. Et puis, j'élevais des poules et des lapins. C'était un petit oasis. Ben, j'ai fait des études au début à la fac de Paris, à Jussieu, et puis après à Montpellier. Et j'avais choisi de faire des études de bio. Et donc... Après les études, je voulais vivre du travail de paysan, quoi, de la terre. C'est comme ça que je me suis retrouvé du jour au lendemain dans une ferme où il y avait des brebis laitières pour faire berger salariés. Tous les jeunes citadins ont entendu parler de la transhumance, des troupeaux en montagne, des bergers, tout ça, mais avec une vision un peu mythique. Et donc, voilà, c'était une réalité qui, peut-être un peu un rêve qui prenait corps, qui se réalisait, quoi.
Je suis d'origine québécoise, parce que j'ai un peu perdu l'accent. En fait, je faisais de l'intervention individuelle et de groupe au Québec. Je pouvais travailler avec autant avec des handicapés mentaux, en psychiatrie, qu'avec des syndicats, qu'avec des ouvriers ou des étudiants. Et je suis venue en vacances en France et j'ai rencontré Jean-Loup, qui lui était déjà berger. Sur le Côte-Nord, à côté de Millau. Donc, je suis retournée au Québec faire mon métier et on est revenu un an après. Et j'ai commencé à côtoyer les paysans et le monde paysan. Commencé à apprendre à traire, à aller garder les bêtes. Et on a fait plusieurs exploitations. En chèvre, en brebis laitière, en brebis viande, et notamment des gens qui fabriquaient du fromage. Et je m'y suis mise et ça m'a bien plu. Ça reliait aussi le contexte social. Et ça me plaisait bien parce que je me disais, je ne perdrai pas contact avec le monde social si je fais du fromage parce que je devrais vendre ma production. Alors, on s'est installé ici à Vachère en 1987. À ce moment-là, en tout, on avait 60 bêtes qu'on avait récupérées de l'Aveyron, de deux troupeaux qu'on connaissait. Donc, on est arrivé, on est parti de rien. Il y avait rien, quoi. Il y avait une vieille grange qu'on a aménagée en bergerie. Et puis, la fromagerie qui est toujours d'actualité. C'est comme ça que ça a démarré. On a eu deux enfants. On a commencé à se soigner et à les soigner en homéopathie. Tout ça, ça nous a fait cheminer vers l'agriculture biologique. Et on s'est beaucoup formé avec des vétérinaires homéopathes. Ce qui fait qu'on a changé notre mode d'alimentation petit à petit. On a beaucoup travaillé sur nos parcours. Et puis au niveau du fromage, on a travaillé de sorte à ce que je fabrique moi-même mes levains sans utiliser de produits industriels. Et donc voilà, tout est issu de Vachère, tout est issu de nos brebis, tout est un tout, quoi. Moi, s'il n'y avait pas les bêtes, je crois que ça ne me plairait pas tant que ça de faire du fromage. C'est le fait aussi de ce lien avec les bêtes, qui fait que faire le fromage devient une création. Je suis obligée de m'ajuster au fait que la lactation évolue de jour en jour, que les bêtes ont des problèmes ou n'en ont pas. Le fait de fabriquer, ça me permet aussi de dire à Jean-Loup, tiens, tu donnes trop d'azote ou t'en donnes pas assez. Ou... C'est un tout. Et moi, ça me plaît, ça.
Ouh, Sabatier, la grosse. Elle est contente, hein? Allez, va t'émoustiller un peu. Hop. On va aller dehors. Hein?
Le berger, c'est celui qui assume les besoins quotidiens du troupeau, essentiellement l'alimentation. Puis surtout, c'est lui qui fait l'agnellage, qui est présent au troupeau au moment de l'agnellage et qui fait tous les soins aux brebis, etc. Et le démarrage dans la vie des agneaux, que les tétés se passent bien, etc. Ce souci alimentaire, c'est du maternage. C'est le même rapport un peu qu'une maman avec son bébé, quoi. Quand on est là avec le troupeau et qu'on les regarde manger, on est comme une maman qui regarde ses enfants à table, qui a préparé un bon repas et qui les voit se régaler avec ce qu'elle a préparé. C'est comme ça que je le ressens, moi. Si un promeneur ou un cinéaste, par exemple, qui va tourner, il va venir dans une région comme ça, boisée, pour lui, ça sera un décor, quoi. Mais nous, c'est pas un décor, c'est ce milieu où nous sommes, cette forêt, ce bois, il a une histoire millénaire. On voit des restes de champs ou de bergeries, on voit des sentiers. Et tout ce milieu est vivant, et les arbres aussi, la végétation, les arbustes sont renouvelés à chaque printemps. Cette unité qu'il y a finalement entre le milieu végétal et le troupeau, on le ressent aussi.
Ça va ! Ça va ! Viens là.
Ce qu'on vit là, on le sait, il est menacé par l'industrialisation et l'évolution de la société, qui est de plus en plus artificielle, artificialisée. Donc, au niveau de l'élevage ovin, on a des obligations maintenant de bouclage électronique, d'identification électronique des animaux. Il y a aussi tout un tas de paperasseries et de déclarations quand on vend des bêtes, etc. Donc, on voit bien qu'il y a une transformation dans le sens qu'on veut nous obliger à des conduites de travail qui sont, d'une certaine façon, en conformité avec l'industrialisation de la production. Et voilà, si on n'est pas d'accord avec ça, eh ben, il faut le dire et chercher l'action collective, quoi. L'important pour quelqu'un qui veut agir, c'est d'agir dans son milieu de vie. D'avoir un lien entre sa vie concrète et sa pratique politique. Si la Confédération paysanne s'est créée, c'est parce que des gens avaient la même vision de l'action collective. Pour défendre ces formes d'agriculture, ce combat, il nous semble important, au-delà de la défense de nos intérêts personnels, même pour la société, quoi.
Qu'on reproche au gouvernement de vouloir nous obliger, parce que c'est l'obligation qu'on refuse par rapport au puçage électronique, c'est justement ça, de nous enlever notre liberté. Notre liberté d'action et notre liberté d'être. Et ça, on pense que c'est aussi projeté sur l'humain. Et donc, on se battra jusqu'au bout, on résistera jusqu'au bout par rapport à ça, quoi. Plus ça va, plus on est contrôlé. Donc, ils nous contrôlent sur le puçage. Puis, ils en profitent en même temps pour faire d'autres contrôles au niveau de l'élevage, notamment là, sur la problématique des soins en homéopathie. Soi-disant que c'est une médecine humaine et qu'on ne peut pas l'utiliser pour les bêtes et qu'il nous faut des ordonnances de nos vétérinaires pour pouvoir acheter les médicaments homéopathiques pour soigner nos bêtes. Et ça, on n'est pas d'accord. Au départ, j'étais pratiquement toute seule en brebis laitière dans le coin avec deux autres personnes. Et donc, on va dire que j'arrosais pas mal au niveau de la vente. Je montais sur le Vercors, j'allais vers Nyons, vers Montélimar, Cré. Je faisais de la vente indirecte. Et donc, je suis de plus en plus en circuit court et ça aussi, c'est une réflexion. Et ben, j'arrive à vendre, hein. Je vends sur Die, principalement sur Die, tout autour, et puis le marché. Et justement, ça renforce mon lien social avec les gens, parce que c'est pas qu'un lien de « je te vends du fromage et tu m'en achètes », c'est un lien qui, sur le plan humain, est hyper important. Il y a quand même un contact qui s'instaure et une confiance et on peut leur expliquer ce qu'on fait. Oui, pour moi aussi, le marché, c'est un milieu de militantisme aussi, hein, pour l'agriculture. Ah, il me semble bien.